Vous écoutez France Culture.
Denis Diderot est né le 5 octobre 1713 à Langres. En cette année de tricentenaire, quoi de mieux que de faire entendre ses lettres à Sophie Volant. La chaleur et l'enthousiasme de l'homme des Lumières nous traversent de part en part. Cette histoire d'amour dura 30 ans. Lorsqu'il rencontre Sophie Volant en 1755, Diderot a 42 ans et elle 39. Il est marié, elle ne l'est pas. Elle vit avec sa mère, ils se voient peu, très peu, mais ils s'écrivent. Nous ne connaissons que les lettres de Diderot. Aucune lettre ni aucun portrait de Sophie Volant ne sont parvenus jusqu'à nous. Il ne reste d'elle qu'un bref testament, daté de 1784. Je donne et lègue à M. Diderot 7 petits volumes des essais de Montaigne, reliés en maroquin rouge, plus une bague que j'appelle ma Pauline. Angélique, la fille de Diderot, dira plus tard. Il se prit pour elle d'une passion qui a duré jusqu'à la mort de l'un et de l'autre. Ils moururent la même année, en 1784, Sophie Volant le 22 février, Denis Diderot le 31 juillet.
Lettre de Diderot à Sophie Volant. Choisie par Hélène Bleskin et lue par Gabriel Dufay.
Écrivez-moi donc si vous voulez que je vous dise combien je vous aime. Je vous serre entre mes bras et je vous réitère tous les serments que je vous ai faits.
Et vous serez heureuse.
Je ne pourrai jamais forcer ce cœur à se taire.
Il faut qu'il tressaille et qu'il s'échauffe au nom de ma Sophie.
Quand on écrit des femmes, il faut tremper sa plume dans l'arc-en-ciel et jeter sur la ligne la poussière des ailes du papillon.
Deuxième épisode.
Langres, 31 juillet 1759. Pourquoi m'accommodais-je autrefois si bien de la vie qu'on mène ici et ne puis-je la supporter aujourd'hui ? C'est ma Sophie que je n'aimais pas et que j'aime. Les choses ne sont rien en elles-mêmes. Elles n'ont ni douceur ni amertume réelle. Ce qui les fait ce qu'elles sont, c'est notre âme. Et la mienne est mal disposée pour elle. Tout ce qui m'environne me lasse, m'attriste et me déplaît. Mais qu'on me promette ici mon amie, qu'elle s'y montre, et tout à sa présence s'embellira subitement. Si les objets ont changé pour moi, il s'en manque beaucoup que je sois le même pour eux. On me trouve sérieux, fatigué, rêveur, inattentif, distrait. Pas un être qui m'arrête, jamais un mot qui m'intéresse. C'est une indifférence, un dédain qui n'accepte rien. Cependant, on a des prétentions, ici comme ailleurs. Et je m'aperçois que je laisse partout une offense secrète. Plus on m'estime, plus on souffre de mon inadvertance. Et moi, j'admire combien sottement les autres s'accusent ou se félicitent de notre humeur. Bonne ou mauvaise, ils s'en font honneur et ils n'y sont pour rien. Ah, si j'osais les détromper, je leur dirais « Vous me plairiez tous si j'avais ici ma Sophie. Et pourtant, elle vous déparerait. » La comparaison que je ferai de vous avec elle ne serait pas à votre avantage, mais je serai heureux, et l'homme heureux est indulgent. Venez donc me réconcilier avec cette ville. Mais cela ne se peut. Il faut que je la haïsse jusqu'au moment où j'en sortirai pour retourner à vous. Je sens d'avance que cette idée embellira mes derniers jours. J'ai reçu vos deux lettres à la fois. Tout ce que vous y peignez, je l'éprouve. J'ai payé le tribut à l'eau et à l'air de ce pays, mais peut-être ne m'en porterai-je que mieux. Grimm me sait ici. Pourquoi donc ne m'a-t-il point écrit ? Il me néglige. Mon ami, réparez sa faute. Parlez-moi de vous. Parlez-moi de votre chère sœur. Si pendant mon absence, il vous arrive de retourner quelquefois au petit château, que je sois avec vous. Adieu, ma bonne, ma tendre amie. Je vous serre entre mes bras et je vous réitère tous les serments que je vous ai faits. soyez en témoin, vous, chère sœur. Si je manque jamais à son bonheur, haïssez-moi, méprisez-moi, haïssez, méprisez tous les hommes. Sophie, je vous aime bien, et je révère votre sœur autant que je vous aime. Quand vous rejoindrai-je toutes deux ? Bientôt, bientôt. Ne me laissez point oublier de Monsieur de Prisy, de l'abbé, de Monsieur Gachon, si vous l'avez encore, et présentez mon respect à Mademoiselle Boileau. J'ai vu, depuis que je suis ici, tous les fermiers de mon père, et je n'en ai pas vu un seul sans les larmes aux yeux. Combien cet homme a laissé de regrets ? Adieu, ma Sophie. Adieu, respectable et digne sœur de ma Sophie. Tournez un peu vos yeux de côté et tendez-moi votre main. Langres, 3 août 1759. Voici, ma tendre amie, ma quatrième lettre. La première vous était adressée. La seconde, sous enveloppe, à M. Berger, receveur général des Gabelles, à l'hôtel des Fermes. La troisième, à Mme Legendre. J'en ai reçu 3 des vôtres, 2 à la fois. Mon frère a ouvert la dernière, mais il n'en a lu que quelques lignes qui ne contenaient heureusement rien qui pût l'effaroucher. C'était le détail des nouveaux accidents survenus à votre chère petite. Pour éviter à l'avenir un quiproquo qui troublerait l'homme de Dieu, désignez-moi par le titre d'académicien de Berlin. La pauvre enfant, que je la plains, que je plains sa mère. Depuis que la glace est cassée, je fais le petit bec. J'approche mes doigts de ma bouche et je vous envoie des baisers comme Émilie à sa maman. Nous nous rapprocherons, mon ami, nous nous rapprocherons. Et ses lèvres se poseront encore sur celles que j'aime. En attendant, je ne permets votre bouche qu'à votre sœur. Je ne souffre point, je dirais presque que j'aime à lui succéder. Il me semble qu'alors je presse son âme entre la vôtre et la mienne. C'est un flocon de neige qui se résoudra peut-être entre 2 charbons ardents. Qu'elle fut aimable le jour que nous nous séparâmes. Combien elle connut notre peine. Son cœur en était serré. Vous ne vous aperçûtes pas que ses couleurs en étaient presque éteintes. Moi, je la voyais, je me rappelle et je me dis « Oh, que le mortel qu'elle aimera sera bien aimé. Oh, combien nous souffrirons, ma Sophie et moi, si jamais nous sommes aussi témoins de leurs adieux. Faites-lui bien ma cour. » La chose qu'elle entendra avec le plus de plaisir, qui m'en fera le plus estimer, qui lui justifiera le mieux les sentiments qu'elle a conçus pour moi, c'est que vous m'aimez, c'est que je vous aime à la folie, c'est que je ne cesserai jamais. Répétez-le lui donc, du matin au soir. Je suis bien aise que Gachon se porte mieux et que son rival soit homme à se payer d'une maxime d'opéra. C'est tout ce que cela vaut. Je ne sais pourquoi mes lettres ne vous sont pas encore parvenues. Rassurez-moi là-dessus. Nous avons ici une promenade charmante. Mes yeux errent sur le plus beau paysage du monde. C'est une chaîne de montagnes, entrecoupée de jardins et de maisons, au bas desquelles serpente un ruisseau qui arrose des prés et qui, grossi des eaux de la fontaine et de quelques autres, va se perdre dans une plaine. Je passe dans cet endroit des heures à lire, à méditer, à contempler la nature et à rêver à mon ami. Oh, qu'on serait bien 3 sur ce banc de pierre. C'est le rendez-vous des amants du canton et le mien. Ils y vont le soir lorsque la fin de la journée est venue suspendre leurs travaux et les rendre les uns aux autres. La journée a dû leur paraître bien longue et la soirée doit leur paraître bien courte. Tandis que je suis là, mon frère, ma sœur et un ami arrangent nos affaires. Il me tarde bien qu'ils aient fait. Voici un trait qui m'a touché et qui vous touchera. Mon père avait une amie. C'était une parente, pauvre, bonne femme, et de son âge à peu près. Ils tombèrent malades presque en même temps. Mon père mourut le jour de la Pentecôte, elle apprit sa mort et mourut le lendemain. Ma sœur lui ferma les yeux et on les a enterrés l'un à côté de l'autre. Fermer les yeux est une expression figurée à Paris. Ici, c'est une action d'humanité réelle. Ma sœur me racontait hier qu'un fils, qui était à côté du lit de son père expirant, crut qu'il était temps de lui rendre ce dernier devoir. Il se trompa, son père sentit sa main, rouvrit les yeux et lui dit « Mon fils, dans un instant. » Oh mon ami, quelle tâche mon père m'a imposée, si je veux jamais mériter les hommages qu'on rend à sa mémoire. Il n'y a ici qu'un mauvais portrait de cet homme de bien, mais ce n'est pas ma faute. Si les infirmités lui eussent permis de venir à Paris, mon dessein était de le faire représenter à son établi, dans ses habits d'ouvrier, la tête nue, les yeux levés vers le ciel et la main étendue sur le front de sa petite fille qu'il aurait bénie. Nous nous fermerons tous les yeux les uns aux autres dans le petit château, et le dernier sera bien à plaindre, n'est-ce pas ? Depuis que j'ai quitté cette ville, tous ceux que j'y connaissais sont morts. Je n'y ai retrouvé qu'une femme, amie d'une jeune fille que j'aimais autrefois et qui n'est plus. J'ai revu cette femme avec joie. Nous avons un peu causé de notre ancien temps. Il faut que je vous raconte d'elle quelque chose qui vous touchera. Peu de temps après la mort de son amie et de la mienne, je fis un voyage en province. Je sortais un jour de chez moi, elle de chez elle. Elle m'invita à l'accompagner à l'église. Je lui donnai le bras. Lorsque nous fûmes sur le cimetière, elle se détourna la tête et me montra du doigt l'endroit où celle que nous avions aimée l'une et l'autre était déposée. Jugez de l'impression que son silence et son geste firent sur moi. Je jouis maintenant un peu plus de mon âme. J'ai fait le bien que je désirais. J'ai rapproché mon frère de ma sœur. Nous nous sommes embrassés tous les trois. Leurs larmes se sont mêlées. Ils vivront ensemble. Puissent-ils se rendre heureux? Et qu'est-ce qui les en empêcherait? Ils sont sensibles et bienfaisants. Mais cela suffit-il? Je me fais illusion tant que je puis sur la diversité de leur caractère. Il le faut bien, ou remporter d'ici une âme pleine d'amertume. Adieu, mon ami. Chère sœur, je vous recommande sa santé. Ne négligez pas trop la vôtre. Mille souhaits pour le cher enfant. J'attends un mot de vous pour écrire à votre mère. Adieu. Adieu, mon ami. J'approche mes lèvres des vôtres. Je les baise. Dussé-je y trouver la trace des baisers de votre sœur? Mais non, il n'y a rien. Les siens sont si légers, si superficiels. août 1759. J'espérais, ma tendre amie, recevoir hier une lettre de vous. Point de lettre. Cela m'inquiète. L'enfant était, à en juger par ce que vous m'en avez dit, dans un état si déplorable que ce silence me fait craindre le grand accident. Mais je m'alarme peut-être mal à propos. Et deux lettres reçues demain à la fois me rassureront. Je me suis laissé engager, je ne sais comment, à passer la journée à la campagne. On partira de grand matin. Combien le temps va me durer si je pars sans avoir rien lu de vous? Mais je compte sur la célérité de la poste qui arrive ici de bonne heure. J'ai passé les premiers jours fort renfermé. Je ne me portais pas assez bien pour me répandre. Voici que je me porte mieux et que je commence à n'être plus à moi. C'est une maladie plus fâcheuse que la première. Ce sont des visites à recevoir et rendre sans fin, et des repas qui commencent le plus tôt et qui durent le plus tard qu'on peut. Ils sont gais, tumultueux et bruyants. Des plaisanteries, ah Dieu, quelles plaisanteries! Je n'aime pas trop tout cela.
Et je n'en avais pas besoin pour sentir tout ce que j'avais perdu en vous quittant. Et puis, le sot personnage à faire que celui de buveur d'eau au milieu d'une cohue de gens dont le mérite principal pour eux et pour les autres est de bien boire. Il faut cependant se prêter et paraître content. On est, à la vérité, soutenu par le bon cœur du maître et de la maîtresse de maison qui se montre à tout moment. On est si aise de m'avoir, si flatté, si honoré. Le moyen de résister à cela. J'ai regretté plusieurs fois d'avoir renoncé au vin. Il est excellent. On en boirait tant qu'on voudrait, sans conséquence, et l'on serait, au moins sur la fin de la nuit, de niveau avec ses convives. Si demain je ne reçois pas mes deux lettres, la tête m'en tournera. Que faites-vous, vous et votre chère sœur? Vous causez, vous vous mémez, vous vous le dites, vous vous faites les moments les plus doux, tandis que moi je parle à faire, je joue au tric-trac et je dispute. Au milieu de cela, j'envoie quelquefois ma pensée au lieu où vous êtes et je me distrais. Combien j'irai vite en m'en retournant. Un oiseau qui a rompu le fil qui le tenait attaché n'aura pas de meilleures ailes. Je soupçonne mon frère et ma sœur de tirer les choses en longueur pour me retenir auprès d'eux plus longtemps. Ils ne savent pas mon impatience, ou ils en font honneur à tel qui n'y est pour rien. Je n'ai pas encore écrit un mot au baron, je n'y ai pas pensé. Je viens de recevoir une belle lettre de Grimm. Oh, pour cela, bien belle et bien tendre. Presque comme si vous l'aviez dictée. Le peu de condisciples qui me restent répandus dans les environs de la ville me sont venus rendre hommage. Il n'y en a plus guère. Ils sont presque tous passés. Deux choses nous annoncent notre sort à venir et nous font rêver. Les ruines anciennes et la courte durée de ceux qui ont commencé de vivre en même temps que nous. Nous les cherchons, et ne les retrouvant plus, nous nous replions sur nous. C'est ce sentiment secret qui nous rend leur présence si chère. Par leur existence, ils nous rassurent sur la nôtre. Il est sûr que j'ai eu grand plaisir à reconnaître et à embrasser quelques-uns de ceux avec qui j'avais reçu des férules au collège, et que j'avais presque oublié. Il semble qu'on revienne en arrière et que l'on redevienne jeune en les voyant. J'ai entendu prêcher la Saint-Dominique par un d'eux. Pas trop mal. Ils ont du feu, des idées que j'aime encore mieux singulières que plates. D'ailleurs, je m'amuse à mesurer par ce qu'ils sont l'indistance d'un esprit brut à un esprit cultivé. Et je vois ce qu'ils auraient été si des circonstances plus heureuses les avaient favorisés. J'ai rencontré ici quelques hommes bien décidés et bien nets sur le grand préjugé. Et ce qui m'a fait un plaisir singulier, c'est qu'ils tiennent un rang parmi les plus honnêtes gens. Mais de quoi vous entretiens-je là? Ne connaissez-vous pas la province aussi bien que moi? Je me venge de votre silence sans m'en apercevoir. Écrivez-moi donc si vous voulez que je vous dise combien je vous aime. Toutes les lettres qui ne seront pas en réponse aux vôtres seront froides. Je vous en avertis. S'il me vient au bout de la plume un mot qui soit doux, crac, je le supprime. Je ne pourrai jamais forcer ce cœur à se taire. Il faut qu'il tressaille et qu'il s'échauffe au nom de ma Sophie. Mais vous ignorerez ce qu'il me suggère. Et non, vous ne l'ignorez pas. Vous le retrouverez au fond du vôtre. Adieu, ma bonne, ma tendre, ma sensible amie. Adieu. Cette lettre sera l'avant-dernière. Je pourvoirai à ce que les vôtres, s'il m'en vient pendant mon absence, soient renvoyés à Paris à l'adresse de M. Berger. On y joindra celle de Grimm. Présentez mon respect à Mme Legendre. Rappelez-moi à Mlle Boileau, à l'abbé, à M. Gachon et à M. de Prisy. C'est à il, selon toute apparence, que vous m'adresserez votre seconde lettre. Est-il toujours bien décidé que je ramènerai Mme votre mère? J'ai rencontré ici des gens qui ont connu Mme Legendre et qui m'en ont parlé avec admiration. Vous vous doutez bien qu'ils ne m'ont pas ennuyé, ceux-là. Je les écoutais et je leur disais qu'elle avait une sœur. Et ils trouvaient que leur mère était bien heureuse. Je vous embrasse, quoique je n'ai point reçu de lettre. Mais je vous embrasserai demain bien mieux, car j'en aurai deux. Oh oui, j'en aurai deux. À Langres, ce 4 ou 5 août
1759. Nos partages sont faits. Nous venons de faire un arrangement de 100 000 francs, ou à peu près, comme on fait celui de 100 liards. Cela n'a pas duré un demi quart d'heure. Je vous dirai cela plus au long. Langres, 10 août 1759. Je regrette un jour qui me tient éloigné de vous. Je regrette aussi cette lettre qui m'attend à présent à Hill. Elle est entre les mains de votre mère, elle y restera trop de temps. Je redoute le moment où elle me la remettra. Comment me l'offrira-t-elle? Comment la recevrai-je? Nous serons troublés tous les deux. Elle verra mon trouble, je devinerai le sien. Nous garderons le silence, ou si nous parlons, je sens que je bégayerai, et je n'aime pas à bégayer. Vous croyez que j'aurai le courage de demander une plume et de l'encre pour vous écrire? Vous me connaissez bien. Les habitants de ce pays ont beaucoup d'esprit, trop de vivacité, une inconstance de girouette. Cela vient, je crois, des vicissitudes de leur atmosphère qui passent en 24 heures du froid au chaud, du calme à l'orage, du serein au pluvieux. Il est impossible que ces effets ne se fassent sentir sur eux et que leurs âmes soient quelque temps de suite dans une même assiette. Elles s'accoutument ainsi, dès la plus tendre enfance, à tourner à tout vent. La tête d'un langrois est sur ses épaules comme un coq d'église au haut d'un clocher. Elle n'est jamais fixe dans un point, et si elle revient à celui qu'elle a quitté, ce n'est pas pour s'y arrêter. Avec une rapidité surprenante dans les mouvements, dans les désirs, dans les projets, dans les fantaisies, dans les idées, ils ont le parler lent. Il n'y a peut-être que ma sœur dans toute la ville qui ait la prononciation brève. C'est une exception dont j'ignore la cause. Il est sûr qu'à l'entendre, on la prendrait pour une étrangère. Pour moi, je suis de mon pays. Seulement, le séjour de la capitale et l'application assidue m'ont un peu corrigé. Je suis constant dans mes goûts. Ce qui m'a plu une fois me plaît toujours, parce que mon choix m'est toujours motivé. Que je haïsse ou que j'aime, je sais pourquoi. Il est vrai que je suis porté naturellement à négliger les défauts et à m'enthousiasmer des qualités. Je suis plus affecté des charmes de la vertu que de la difformité du vice. Je me détourne doucement des méchants et je vole au-devant des bons. S'il y a dans un ouvrage, dans un caractère, dans un tableau, dans une statue, un bel endroit, c'est là que mes yeux s'arrêtent. Je ne vois que cela, je ne me souviens que de cela. Le reste est presque oublié. Que deviens-je lorsque le tout est beau? Vous le savez, vous, ma Sophie, vous, sa sœur, vous, mon ami. Un tout est beau lorsqu'il est un. En ce sens, Cromwell est beau, et Scipion aussi, et Médée, et Arria, et César, et Brutus. Voilà un petit bout de philosophie qui m'est échappé. Ce sera le texte d'une de vos causeries sur le banc du Palais Royal. Adieu, mon ami. Dans 8 jours d'ici, j'y serai, je l'espère. Je ne vous écrirai pas que je vous aime, je vous le dirai, je vous le jurerai. Vous le verrez et vous serez heureuse, et je le serai aussi. Et la chère sœur, ne le sera-t-elle pas ?
Lettre de Diderot à Sophie Volant. Choisie par Hélène Bleskin et lue par Gabriel Dufay. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son et mixage, Bruno Mourlan et Bastien Varigaud. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Cédric Ossière.